Course à vol. Je t'écris, cher ami, sous le choc d'une douleur compliquée d'épouvante, qui peut-être atténuera en moi la faculté de rendre clairement mes pensées. Je solliciterai donc toute ton indulgence si, hélas, elle ne devait pas être acquise d'un seul coup par cette foudroyante nouvelle, Lionel est mort. Il est mort dans un accident épouvantable, à quelques pas de moi, par l'imprudence d'un ivrogne qui lui reste à périr lui-même dans l'incendie allumé par cet alcoolique qui fumait sa pipe sur des bottes de paille sèches. Mais, si je puis dire, Lionel est doublement mort, car il emporte avec lui un secret admirable, la solution du problème le plus apparemment ardemment creusé à notre époque. L'appareil qu'il avait construit résultait de tant de recherches et de travaux, a été consumé pendant que le malheureux savant était asphyxié par la fumée, puis dévoré par les flammes. Quand je songe que cet enthousiaste, qui n'était pas un névrosé, se fut résigné à la mort, pourvu que son invention lui survécut, je ne puis ne pas pleurer. Car je sens que, dans son dernier spasme, cet anéantissement de son œuvre a dû centupler ses tortures. Mais je vois que je m'égare, mieux vaut te dire tout de suite ce qui s'est passé et te répéter, autant du moins que me le permettra ma mémoire troublée, les dernières paroles qu'il m'a adressées. Ne prévoyez pas alors l'horrible catastrophe qui allait briser tous ses projets. Et certes, pareille crainte était bien loin de ma pensée, mais la fatalité nous guette à tous les coins de la vie. J'étais dans mon cabinet. Tu connais ma petite maison, juchée sur une côte qui s'en va doucement jusqu'aux abords de la Sorgue et domine plusieurs lieux de pays. Et juste en face de moi, je vois, quand je travaille, le long ruban blanc de la route qui redescend vers le pont d'Aligné à plus de 3 kilomètres. Cette route, par suite des accidents de terrain, se contourne et en certains points qui servent de repère à ma rêverie, disparaît derrière les massifs de peupliers et d'acacias. Je dis bien souvent en riant qu'il serait impossible à un visiteur de me surprendre, car les voitures faisant absolument défaut dans ce pays, il faut bien, pour venir chez moi, déboucher du pont sur la route. Or, j'ai fait cette remarque que, quelle que soit ma préoccupation, si un point noir surgit à la tête du pont, j'ai acquis la faculté de reconnaître immédiatement si le piéton est un paysan ou un citadin. Malgré la distance, je reconnais la forme du vêtement, du chapeau. Et si la mise me révèle autre chose qu'un villageois, alors je m'arme de ma longue vue, ayant bien vite reconnu le bienveillant qui s'est mis en tête de me dire rendre visite. Véritable pèlerinage amical, j'ai encore une demi-heure devant moi pour préparer une réception fraternelle, ce qui n'est pas sans provoquer de la part de l'arrivant des effusions surprises et satisfaites. Donc, comme l'homme du corbeau d'Edgar Poe, j'étais en train de compulser un vieux recueil de légendes ignorées, me laissant bercer à des rêves indécis, quand l'instinct que j'ai dit me fit lever la tête. À l'entrée du pont, je vis un point noir, ou plutôt une boule brune, quelque chose de forme singulière, anormale, que je ne pouvais qualifier d'un mot. Me détournant, je saisis ma lorgnette marine et la dirigeai sur la route, à l'endroit qui venait d'attirer mon attention. Et combien je fus surpris de ne plus rien voir. Je visais en deçà, au-delà, rien. Cependant, l'objet ou l'être avait eu peine le temps d'avancer de quelques mètres. Machinalement, je pointai ma lorgnette en amont de la côte, et stupéfait, j'aperçus la forme noire qui déjà se trouvait à plus d'un kilomètre en avant. Avançait avec une rapidité formidable. Je distinguais mieux la forme. On eût dit un oiseau énorme qui, penché en avant, rasait la terre avec une vélocité inouïe. Cela tenait du prodige. Et quelle ne fut pas alors ma confusion en constatant que cela avançait avec une rapidité formidable. Je distinguais mieux la forme. On eût dit un oiseau énorme qui, penché en avant, rasait la terre avec une vélocité inouïe. Et nul autre que toi ne me croirait, cet oiseau avait une tête humaine. Humaines aussi étaient les jambes, dont les pieds effleuraient à peine le sol, procédant par bond ou glissement. Et la rapidité de la course était telle que je ne distinguais rien de plus. Et cela approchait, approchait toujours. Je pris mon chronomètre et je comptais. À chaque seconde, le glissement à jambes grand écartées et à pointe de pied était de plus en plus de 10 mètres, soit de plus de 600 mètres à la minute. L'être, la bête monstrueuse, se dirigeait droit vers mon maison, toujours avec la même célérité vertigineuse. Je vis que cela piquait vers ma porte, dont la grille de fer était fermée. Oh, j'eus peur en vérité d'une atroce brisement contre les barreaux, et je bondis de mon fauteuil dans la cour pour ouvrir cette grille. Mais je n'avais pas encore touché le sable que l'être, par une courbure douce, glissait au-dessus de mon mur et avec la flexibilité d'un clown, s'arrêtait sur le sol, à quelques pas de moi. Je poussai un cri auquel répondit un éclat de rire. Et regardant la tête qui avait ri, je reconnus qui ? Lionel, notre camarade d'études et d'espérance. « Toi, toi !» m'écriai-je, ne trouvant pas d'autres paroles. De fait, n'était-il point incroyable de retrouver, sous un accoutrement fait, je le crus alors de plume, l'armée que j'avais nommée, et qui, se dégageant, m'apparaissait tout entier errant. Eureka! Eureka! Je m'étais approché vivement, doutant encore de la réalité, tandis qu'il débouchait, bouclait de ses épaules, de ses coudes, des lanières de cuir. Oh, le laisse-moi faire! Cria-t-il, presque irrité. En un clin d'œil, il avait dépouillé ses ailes, puis-je dire autrement. Et pourtant, je remarquais un bruit cliquetant comme de broussailles de métal. Soigneusement, il déposait sur le sol ce qu'il avait enlevé de ses épaules et qui, à terre, ressemblait à une immense chauve-souris. Puis, me tournant le dos comme pour se cacher de moi, Il se mit à plier l'armure, je ne sais quel mot employer, et la réduisant d'un volume petit, celui par exemple d'une fourrure rousse, roulée, il l'emporta allègrement sous son bras. Et avant que j'eusse pu lui adresser une parole, « Ma chambre, me dit-il, oh, je dîne avec toi, je couche chez toi, m'interroge pas encore, tout à l'heure je veux savourer égoïstement, pendant quelques instants, ma joie triomphante. En dînant, je te dirai tout, et puis demain, tu verras, oh, tu verras !» Force fut bien de lui obéir, la discrétion étant la première condition de l'amitié. Silencieusement, jouissant sincèrement des expressions radieuses de son visage, je le menai au petit pavillon qu'il avait déjà occupé et contre lequel mon jardinier avait empilé des bottes de paille. Il monta avec son fardeau, qui semblait bercé comme un enfant, puis étant entré, me ferma la porte au nez, riant de plus belle et criant à travers lui « À tout à l'heure et que le dîner soit bon !» Le repas servi, il mangea vaillamment, me regardant parfois avec malice, car il devinait combien je souffrais de ne pas pouvoir l'interroger. Vint le dessert, et nos verres étaient pleins de Rivesaltes parfumées. « Hey, ça, me dit-il, je suis à toi, ou plutôt tu es à moi, car j'entends que tu m'écoutes sans m'interrompre. Si je t'ennuie, tant pis. Ami, fais ton devoir. » Tu vas m'expliquer ce prodige, commençai-je. Tais-toi, fit-il, pas un mot. Laisse-moi m'entendre que la pensée qui bouillonne en moi, que la joie qui vibre en ma poitrine, fait de tout en mon être une harpe cérébrale. Tais-toi, que pas une voix humaine, pas même la tienne, ne trouble l'ineffable mélodie qui chante en toutes mes fibres. J'ai trouvé, je suis grand, je suis roi, je domine l'humanité. Et je ne suis pas fou, ayant cependant toutes les jouissances de la folie, s'affirmant en vérité. Écoute, écoute bien, tu me comprendras, toi. Te souviens-tu combien et combien nous avons discuté avec un acharnement jamais découragé le problème de l'aviation? Te souviens-tu que, nous racontant les rêves des sommeils jeunes et alourdis, nous disions que des fois, il nous avait semblé tout à coup nous détacher de la terre et voler à travers l'espace? Ou plutôt, quand nous avions fait cette remarque, il nous paraissait que, par un phénomène de lévitation constaté, réellement constaté, chez les extatiques ou les fakirs, nous sentions glisser au-dessus du sol. Allons vite, vite, toujours plus vite. Te souviens-tu encore, car c'est à ces prémices que j'ai dû ma conclusion victorieuse, que, fouillant les antiques légendes, mythes bibliques ou hymnes védiques, renouvelant les archanges à la porte de l'Éden, ou à travers les cieux hindous, les marous frôlant l'espace, nous avions esquissé cette conclusion, que c'était là le ressouvenir de rester en homme d'être volant qui, autrefois, avait existé. Te souviens-tu qu'un jour, au bord de la mer, sur une falaise, le vent s'étant engouffré dans nos vêtements, nous laissâmes pendant quelques secondes à demi soulevés et poussés en avant, nous aidant à peine de la pointe des pieds. Tu ne peux pas avoir oublié tout cela. Il y a en l'homme un rêve, d'elle qui le hante, qui est au fond de lui, comme le germe au fond du berceau. Non, non, non. Berceau terreau, il y a en l'homme un rêve. Il y a en l'homme un rêve d'elle qui le hante, qui est au fond de lui, comme le germe au fond du terreau. Et pendant longues, bien longues années, j'ai cherché, moi aussi, comme tant d'autres, à réaliser la fable d'Icare. Et toujours j'ai échoué, sachant qu'au premier essai, je me briserai la tête comme tous les fous, fous moi-même. Pourtant, je ne pouvais me résoudre à abandonner la lutte. Je voulus vaincre, j'ai vaincu. Comment ? Parce que j'ai compris cette vérité. Tous les chercheurs ont prétendu s'élever à 20, 50, 100 mètres au-dessus de terre. Tous ont rêvé de planer comme l'aigle, de filer à des hauteurs vertigineuses comme le faucon, de se perdre dans la rue, nu. Et moi, j'ai dit, mais à quoi bon ? Et là était mon triomphe. Ne m'a-t-il donc besoin de s'élever à de telles hauteurs qu'il aille toucher les astres ? Allons donc. La nature lui répond par la raréfaction de l'air, par l'asphyxie. Son poids même, la force centripète, sont des enseignements qu'il n'a pas voulu comprendre. Ce qu'il faut à l'homme, c'est, en s'aidant de la terre et de l'air, conquérir la vraie force de l'oiseau, qui n'est pas l'élévation mais la vitesse qui est une jouissance sublime, réelle. Aimer des femmes et de nous tous. C'est encore de ne point peser à la terre, de franchir les distances sans effort, et par une conséquence immédiate de franchir les obstacles qui s'opposent à notre passage. C'est d'inutiliser la vapeur en développant l'appareil humain. Voilà le vrai problème. Et en le rapetissant, pour ainsi dire, je l'ai rendu pratique, tangible, soluble à ce point que tout à l'heure, tu m'as vu franchir 3 kilomètres en quelques minutes, sauter en me jouant par-dessus un mur de 2 mètres. Et cela parce que, élève de cette éducatrice merveilleuse qui s'appelle la nature, j'ai tout uniment imité la course. Vol de l'autruche, du hako, du mandou d'Amérique. Tiens, que dit Brahm ? Quand le mandou trotte les ailes relevées ou nonchalamment en apparence, son pas est de 1,15 m. Et quand il est poursuivi, il atteint jusqu'à 1,60 m. L'autruche fait 28 km en 1 heure. Et pour cela, que leur faut-il ? Que leurs ailes s'agitent à peine. Elles ne servent que de support, de glissoir, si je puis dire, de patin sur l'air. Sur l'air où elles prennent point d'appui, qui est pour les animaux qu'un appareil d'allègement. Sens-tu la portée de ce mot ? Vaincre l'air par l'air ? Foin de ces ambitions ridicules, de ces illusions absurdes qui nous entraînent à chercher l'impossible, et vive la course vol ! Déjà, tu m'as compris. Aider des recherches de marée, ayant étudié avec la plus minutieuse patience la course-vol de l'autruche et de ses congénères, ayant analysé et décomposé le mouvement 8 de ses ailes courtes, arrondies, subobtuses, aux rémiges inégales, j'ai construit en fil métallique, d'une légèreté, d'un flou admirable, n'avons-nous pas l'aluminium, un appareil d'ailes à plumes factices que je meus par une simple et facile opération des bras et des épaules. Aussi j'ai dû chercher longtemps. L'excentrique m'a tiré d'affaire. J'ai obtenu le battement doux et puissant à la fois, qui successivement saisit l'air et le laisse s'écouler. Et j'agis comme le gamin qui, à l'aide d'une perche, franchit un ruisseau. Et j'ai décuplé la vitesse humaine. Mais dans de mes pieux, dans la pente pointe est armée d'une pique de fer, sorte d'ongle, je ne cours plus, je bondis de mètres en mètres par une faible détente du jarret. Aussi je franchis un obstacle de 3 ou 4 mètres avec une légèreté d'oiseau, tandis que mes ailes, formant parachute, amortissent la chute. Ah, il y a bien des détails. Demain matin, je t'expliquerai tout. Et tu seras comme moi, stupéfait, que cette idée si simple ne soit pas venue à d'autres. Et les gens s'en seront heureux. Car nous donnerons notre secret, tu vois, je dis notre, au pays, à la patrie, et que de conséquences, songe en temps de guerre. Et Lionel, fatigué, se retira de bonne heure dans sa chambre. À minuit, je fus réveillé en sursaut. C'était l'incendie, tu sais le reste. Sois discret. Que nul ne sache jamais ce qui a été perdu cette nuit-là. Surtout ne cherchons pas à reconsulter l'œuvre de Lionel. Ce serait presque un vol aux pauvres morts. Pourtant, si tu as un instant, viens me voir.